Bonjour et bienvenue, c'est Comme un bruit qui court, le magazine de reportage du samedi sur France Inter.
En direct du studio 611, une émission réalisée par Pierre Jabot, assisté de Karen Day, avec Henri Berec et Jean-Noël Véhélan à la technique aujourd'hui.
Au sommaire cette semaine, après la COP 21, êtes-vous du bon côté du barbelé ?
Qui veut vivre du bon côté des barbelés ?
Samedi 14h sur la Tour Eiffel, le grand rendez-vous à ne pas rater. Donc Alternativa attaque pour expliquer que nous aurons le dernier mot, nous, en tant que citoyens.
Je ne peux pas être tranquillement du bon côté des barbelés. C'est pas possible.
Dites-moi, monsieur, c'est sérieux les bruits qui courent ?
Comme un bruit qui court qu'on n'est pas sorti de l'auberge, enfin du hangar du Bourget où vient de se finir la COP 21. Nous sommes presque au bout du chemin et sans doute au début d'un autre, nous a dit Laurent Fabius en dévoilant le texte final ce midi. Presque au bout du chemin, c'est sûr, nous y sommes bel et bien. S'il y a bien une chose que ces deux semaines ont réussi à marteler, c'est l'urgence climatique. Reste qu'une fois passées les grandes envolées, les beaux discours, le début d'un autre chemin qui s'ouvrirait à nous n'est pas très très rassurant. Car à la table des négociations entre nations, les multinationales ont eu aussi leur mot à dire ou comment changer le système tout en gardant des parts de marché. Alors pendant que les 195 représentants se retrouvent pour finaliser ou non l'accord, en ce même moment, les militants de la coalition Climat 21 prennent la parole sur le champ de Mars à Paris et c'est avec eux qu'Antoine Chao est allé faire le point pour préparer la suite. Car changer d'air pour changer d'air, voilà ce qui nous attend. Et dans la forteresse Europe, le changement d'air est bel et bien enclenché. Bienvenue à l'ère des barbelés. Car pour répondre au fantasme de l'invasion des réfugiés tout en attisant les peurs, là, nos gouvernements étaient beaucoup plus rapides, car tout ne tient qu'à un fil. Barbelés dans les têtes, tout autant que dans les paysages, la peur des barbelés, voilà la stratégie de l'Europe pour tenir les réfugiés à distance, comme le montre le dernier rapport d'Amnesty. Plutôt que se préparer à recevoir une petite fraction de ces réfugiés, le bloc politique le plus riche du monde nous fait, nous, tout pour les empêcher d'entrer en érigeant des barrières aux frontières, en déployant toujours plus de gardes-frontières. Bienvenue à l'ère du barbelé, disais-je. Reste à savoir de quel côté on est, dedans ou dehors, enfermé ou refoulé. C'est sur ce fil que nous emmène réfléchir aujourd'hui Charlotte Perry avec le philosophe Olivier Razac. Jusqu'à 17h sur France Inter, comme un bruit qui court, quel changement d'air ? Et êtes-vous du bon côté des barbelés ?
Antoine Chao !
Charlotte Perry !
Qui vont-ils ? Comme un bruit.
Avenue de la Grande Armée, Paris, 16e arrondissement, samedi matin à 11h. Donc une des dernières actions de cette mobilisation citoyenne pendant la COP 21. Et donc pour déployer une grande banderole rouge qui va symboliser les lignes rouges à ne pas dépasser, qui va être déployée sur cette avenue de la Grande Armée. Laurent Pinatel, alors, porte-parole de la Confédération Paysanne, c'est une des dernières actions hein, pour cette mobilisation citoyenne pendant la COP 21. A priori, elles sont largement dépassées, non, ces lignes rouges ?
Ouais, c'est ce que je me disais en voyant les lignes rouges qui se déploient là aujourd'hui, c'est de dire, mais en fait, les lignes rouges, c'est bien de les revisualiser parce que celles qu'on avait tracées avant la COP, elles sont tellement loin qu'on les a vraiment perdues de vue. Enfin, nous, non, mais les négociateurs, oui. On voit effectivement qu'il va sortir du Bourget un accord. Et qu'on va se satisfaire de dire on est tombé d'accord. Et quand on va regarder, on est tombé d'accord sur quoi ? Bon, on est tombé d'accord sur rien en fait. On est tombé d'accord sur le fait que les multinationales vont continuer à avoir le droit de polluer, que les multinationales vont continuer à avoir le droit d'émettre des gaz à effet de serre, pour peu qu'on essaye de trouver une solution éventuellement sur des compensations. Donc c'est vraiment se moquer un peu du genre. Moi je pense que voilà, la mascarade du Bourget va prendre fin aujourd'hui et les mobilisations citoyennes qui sont fortes aujourd'hui puisque on est quand même un peu moins oppressé par l'état d'urgence, ces mobilisations citoyennes, elles sont le vrai point de départ d'une prise de conscience climatique, d'un grand mouvement climatique qui doit continuer sur l'année 2016 pour proposer des solutions aux alternatives aux énergies fossiles. Et puis pour ce qui est de la Confédération Paysanne et notre cœur de projet agricole, de dire que l'agriculture industrielle, elle détruit une partie du climat. Et que l'agriculture paysanne, relocalisée, celle qui est pratiquée par des millions de paysannes et paysannes à travers le monde, elle est vertueuse pour le climat. Elle utilise peu d'engrais, peu de pesticides, peu de transport, donc peu d'énergie fossile. Elle fait vivre des hommes et des femmes, elle produit des produits de qualité. Et ça, c'est la vraie solution. Alors c'est sûr que ce n'est pas dans l'intérêt des multinationales. Bah, c'est ce qu'on va rappeler aujourd'hui, que l'intérêt du peuple et l'intérêt des citoyens, il doit s'imposer aux intérêts privés des multinationales.
We don't need to wait for the government, we don't need to wait for business, like we did during the anti-apartheid movement. Thank you.
C'était ce matin sur l'avenue de la Grande Armée, une des initiatives de la société civile pour avoir le dernier mot, pour que la COP21 ne laisse pas brûler la planète. Et la mobilisation continue en ce moment sur le Champ de Mars, au pied de la Tour Eiffel, logo de la COP21 et symbole parfait de l'entrée dans l'ère industrielle, pour signifier que l'état d'urgence climatique doit être décrété au-delà des intérêts économiques de chacun. Et ces actions ont été organisées par une multitude d'associations, d'ONG, de syndicats et de militants regroupés au sein de la coalition Climat 21, dont le QG était au 104 dans le 19e, pour préparer aussi la suite, les semaines et les années qui viennent un peu partout dans le monde. Allons faire un tour, direction la ZAC, la zone d'action climat, une action qui ne fait que commencer.
Comme un bruit qui court.
Sur France Inter.
Le 104, coalition Climat 21, accueille zone d'action climat, la ZAC, qui s'est installée au 104, du 7 au 14 décembre.
Samedi 14h sur la Tour Eiffel, le grand rendez-vous, à ne pas rater. Pour expliquer que nous aurons le dernier mot, nous, en tant que citoyens.
Donc un rassemblement massif, pacifique et déterminé sur le Champ de Mars.
Sur le Champ de Mars, oui. Avec Alternativa et tous les signataires, la Confédération Paysanne et tous ceux qui sont là.
ZAC 104, zone d'action climat du 7 au 14 décembre 2015. Assemblée Générale, 18h.
Like we done during the anti-apartheid movement. Thank you.
Justice pour une justice climatique. Voilà la zone d'action climat, la ZAC, organisée par la coalition Climat 21, avec des conférences, des rencontres, un débriefing, une assemblée générale de toutes les ONG le soir, tous les soirs à 17h. Alors il y a toujours les quelques danseurs ici qui occupent l'espace de la grande nef du 104 dans l'Est parisien, 104 rue d'Aubervilliers, dans le 19e. Et il y a aussi tous les militants, les associatifs qui sont là, qui sont venus pour essayer d'influer sur les décisions qui seront prises au Bourget. Nous sommes les solutions. Capitalisme et néocolonialisme ne sauveront pas le climat. Si on ne fait rien, personne ne le fera à notre place. Hashtag Climat21, coalitionclimat21.org.
Alors, je suis Juliette Rousseau et je suis coordinatrice et porte-parole de la coalition Climat 21. La coalition, elle est composée au niveau français de 130 organisations, des syndicats, CFDT, CGT, Solidaire, FSU, Confédération Paysanne, des ONG environnementales, des ONG de solidarité internationale. Donc là, on a vraiment la grosse majorité de ce qui compose le paysage ONG aujourd'hui, des mouvements plutôt sociaux, des groupes de foi, des mouvements d'éducation populaire, une grosse diversité d'organisations. La coalition en elle-même, c'est un outil qu'on a créé début 2014 pour la COP21 dans l'idée de construire des mobilisations autour du sommet de la COP21. Maintenant, l'outil, lui, n'a pas vocation à durer. Le mouvement qu'il compose, par contre, si, c'est un mouvement qu'on imagine, qui vient qu'à une histoire, qu'on imagine de long terme et pour lequel Paris est en fait une étape. La réalité aujourd'hui, c'est qu'on a un sommet de la COP21 fermé, entouré par des forces militaires, policières, avec des personnes accréditées, donc sélectionnées, qui y vont. Et que face à ça, plutôt que de reconnaître à la société une légitime expression critique, plutôt que d'autoriser l'espace pour un débat contradictoire, on a fait le choix, sous des arguments sécuritaires, de dire « ça n'est pas possible ». Et de considérer par ailleurs qu'une partie du mouvement plus radical est à ce titre considérée dangereuse et donc là pour le coup carrément bâillonnée. À mon sens, une problématique aussi dramatiquement importante pour nous tous ne peut pas être résolue dans un espace confiné par des personnes sélectionnées, par des chefs de gouvernement, par des négociateurs qui sont des experts extrêmement pointus, mais finalement assez déconnectés du reste de la société. Et tant qu'on sera dans cette configuration, je ne crois pas qu'on pourra aller dans le bon sens par rapport à cette crise. On pourra dire tout ce qu'on veut, je ne crois pas qu'on pourra considérer qu'on va dans le bon sens. Maintenant, la question qui est peut-être plus émergente dans ce mouvement, c'est vraiment la question de la justice climatique. C'est-à-dire, en fait, on voit de plus en plus de gens militer sur la question du climat qui ne sont pas venus par l'environnement, mais qui sont venus par les luttes antiracistes, qui sont venus par les luttes anti-austérité, et qui, aujourd'hui, sont plus à même de faire le lien entre ces différentes luttes. Et je pense que c'est peut-être ça la nouveauté, finalement, de ce mouvement.
Pauvre, riche.
Première chose, pour vous donner un chiffre, nous sommes en ce moment dans la zone d'action climat 2500 personnes, 2500 militants qui viennent de la France entière, mais aussi d'Europe et du reste du monde.
Pauvre riche.
Amida Hong, vous êtes historienne des sciences, directrice de recherche au CNRS, au Centre Alexandre Coiré. Alors, vous avez publié « Gouverner le climat, point d'interrogation, 20 ans de négociations internationales aux éditions de Sciences Po ». Alors Amida Hong, vous faites partie de la délégation française au Bourget. Alors un petit point d'étape en ce vendredi, donc à la veille du texte final, si le texte est rendu de samedi.
À vrai dire, on est encore un petit peu dans le flou, parce que la délégation française, etc., a été très optimiste pendant les premiers jours. Et je pense qu'elle a, bon, elle a essayé d'avancer avec habileté. Mais néanmoins, il y a un noyau dur de conflits et de contradictions. Et là, on bute dessus. On bute dessus. Donc il y a un certain nombre de problèmes majeurs qui ne sont pas encore résolus, qui sont beaucoup dans des rédactions de textes. Mais en fait, derrière des rédactions de textes, il y a des réalités qu'on essaye d'occulter. Et donc, je crois que les trois principaux problèmes qui ont occupé, ça a été le thème de la différenciation. Parce que vous savez que tout le processus a été construit sur une opposition entre les pays développés et les pays en développement. Donc, la différenciation, c'est un thème extrêmement conflictuel qui arrive à tous les articles, presque. Deuxième chose, il y a eu ce problème des 1,5 degrés ou 2 degrés. On croyait que c'était 2 degrés. Hein. Franchement, j'étais persuadée que la question était réglée. Parce que les scientifiques nous disent qu'on est déjà à 1 degré. Et avec tout ce qu'on a mis dans le système climatique, qui a des effets d'inertie, les océans retiennent le carbone et le recyclent, mais donc ils vont restituer de la chaleur dans les décennies à venir. Donc moi, je croyais que vraiment, les 2 degrés, c'était l'objectif qui avait été énoncé à Copenhague, un objectif politique, hein, principalement, mais qu'on n'allait pas descendre en dessous parce que ce n'est pas possible. Donc on sait que les pays en développement veulent, les petites îles en particulier, ils sont menacés de submersion. Et c'est vrai que même avec 1,5 degré, elles seront très fortement impactées. Mais malheureusement, nous avons perdu trop de temps. Nous avons perdu 20 ans presque. Aujourd'hui, moi, ce dont j'ai peur, c'est qu'on met les 1,5 degrés avec quelques bémols, parce qu'on sait très bien que ce n'est pas très réaliste, mais en même temps, on vide de son contenu les dimensions économiques et transformationnelles concrètes de ce qu'il faut faire Ça ne figure pas dans la négociation. C'est-à-dire comment on passe concrètement et comment on va le vérifier et comment on va suivre les chemins des pays, vérifier leurs engagements, etc., pour sortir des énergies fossiles dans les décennies à venir. Donc évidemment, les pays producteurs d'énergie fossile ne veulent pas entendre parler de cette mention dans le texte. Ils ont obtenu sa suppression. Le mot énergie fossile n'y sera pas. Voilà, donc on est encore dans une négociation qui, si vous voulez, n'est pas ancrée, selon moi, dans le réel. J'espère sincèrement que la délégation française va y arriver. Elle travaille beaucoup, elle fait beaucoup pour ça. Mais c'est pas simple parce que y a des points qui sont très très ancrés depuis des années et qu'on ne regarde pas. Et puis d'autre part, comme on est, si vous voulez, on n'est pas on ne désigne pas véritablement les conflits politiques ou les conflits d'intérêts. On ne veut pas les identifier. On est autour. Il s'agit de la méthode onusienne, c'est de pas en parler. Donc si l'Arabie saoudite ne veut pas qu'il y ait le mot énergie fossile, ne veut pas envisager un horizon après les énergies fossiles, et ben voilà. C'est comme ça, on le garde, et puis c'est voilà, etc. pour des tas d'autres pays. Donc chacun a son petit intérêt qu'il garde, et finalement l'intérêt général, qui est la question du climat, se donner les moyens de respecter, par exemple, ou de faire en sorte d'être le plus près possible des 2 degrés. Je dis le plus près possible parce que ça va être très difficile. On n'a pas suffisamment, à mon avis, conscience que c'est une transformation très profonde dans tous les secteurs de la vie économique, productive, de consommation, dans les échanges, dans l'aérien, dans tout. Il faudra faire des transformations, des économies, sacrifier certaines choses. Tout ne pourra pas se faire sans effort, quoi. Voilà.
Merci, Amida.
Geneviève Azam, vous suivez donc les négociations pour Attaque. Elles ont été largement dépassées, ces lignes rouges qu'on essaye de reposer aujourd'hui sur ce champ de Mars.
Il n'est pas question de transition énergétique dans ce texte. C'est le sens de ces lignes rouges ici qui sont dressées sur l'avenue de la Grande Armée. C'est d'ailleurs tout un symbole parce que justement, si nous voulons la paix dans le monde, si nous voulons la justice, nous devons prendre véritablement à bras le corps ce défi climatique. Nous sommes plus qu'inquiets, en colère du fait que les transports aériens et les transports maritimes ont été enlevés du texte comme objectif également pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Comment se fait-il qu'on puisse, en 2015, alors qu'on nous avait promis un accord historique face à une situation qui effectivement est historique, nous sommes dans le réchauffement climatique, nous y sommes, nous devons le freiner très vite. Eh bien, nous avons un vague arrangement très imprécis entre des puissances qui campent sur leurs intérêts nationaux, entre des lobbies qui défendent leurs intérêts, qui n'écoutent pas la voix des sociétés. La voix des sociétés, elle est ici. Nous avons des solutions, nous les mettons déjà en œuvre, nous allons les développer et nous allons tout faire pour bloquer la machine à réchauffer la planète. Déjà aujourd'hui, nous avons une grande journée de mobilisation ici, à Paris et dans d'autres villes de France. Nous allons avoir plusieurs réunions, coordination nationale, internationale. La coalition Climat 21, elle va se poursuivre et nous entendons bien donc poursuivre nos combats.
Ému aux larmes, Laurent Fabius a déclaré ce matin lors de la séance plénière de la COP21 « Nous sommes presque au bout du chemin et sans doute au début d'un autre ». Oui, tout laisse effectivement à penser que l'accord de Paris ne suffira pas à stopper le réchauffement climatique ou même à inverser la tendance et que la société civile devra continuer à se mobiliser.
Le 17 septembre dernier, les caméras thermiques de la police repèrent sur leur écran de contrôle 300 personnes qui courent en direction de la frontière espagnole. Il s'agit de 300 clandestins africains dont l'objectif est de franchir une à une les 3 barrières qui séparent le Maroc de l'Espagne. La première mesure 7 mètres de haut, la dernière va s'écrouler sous le poids des clandestins.
Jour après jour, de nouvelles barrières sont érigées en Europe. Face au flot continu de migrants, La Hongrie a d'abord élevé un mur de barbelés sur sa frontière avec la Serbie, sur 175 km.
L'image d'homme derrière des barbelés qui devrait être insupportable est en train de changer de polarité pour devenir une image de protection.
Le flux des réfugiés ne baisse pas et l'Europe se barricade chaque jour un peu plus.
Il y a 10 ans, c'est l'enclave espagnole au Maroc de Ceuta et Melilla qui avait édifié sa barrière pour décourager les migrants subsahariens de passer en Europe.
Être du bon côté des barbelés, c'est en même temps être contaminé, nécessairement, par ce qui se passe de l'autre côté.
On l'appelle corde du diable, écharpe du souvenir aux frontières brûlantes. Le fil de fer barbelé, outil agricole ingénieux, est devenu un outil très politique. Mais alors que l'image du barbelé évoquait jusqu'à présent le paysage délabré du No Man's Land ou les camps de concentration nazis et symbolisait à lui seul l'idée d'oppression et de violence politique, cette symbolique n'est-elle pas en train de changer? Car la crise internationale des migrants a fait réapparaître le barbelé dans notre paysage médiatique. Des frontières entre la Hongrie et la Serbie, entre la Turquie et la Grèce, entre le Maroc et les enclaves espagnoles de Ceuta et Melilla. En tout, près de 235 km de clôture barbelée entourent la forteresse Europe. Quels sont les enjeux pour nos démocraties et pour nous qui sont du beau côté du barbelé? Rencontre avec Olivier Razac, philosophe et auteur d'une histoire politique du barbelé que nous retrouvons à Lyon, près de l'aéroport, pour une excursion au centre de rétention administrative, là où la République déroule ses barbelés.
6 minutes.
Ah mais c'est indiqué.
La rue du Royaume-Uni. Pas le centre. Hein. Normalement à partir de là, ça devrait être ça.
Restez à droite, à l'embouchement.
Mais on m'avait déjà dit que c'était dur de trouver les centres de rétention. Normalement, il y a des panneaux. Enfin, des panneaux, il y a marqué CRA. Je crois que j'ai vu ça sur internet. Mais enfin, ça a l'air discret quand même. Hein. C'est au milieu de rien et puis au milieu d'autres choses qui n'ont rien à voir, c'est-à-dire des entreprises, des hôtels. Après, les abords d'aéroports, c'est un peu toujours le côté no man's land.
On est dans la zone de l'aéroport de Lyon, en fait.
Voilà.
Direction l'hôtel Kyriad et l'hôtel voilà. Ibis.
Comme quoi, ça se reconnaît quand même. Là, on vient juste de voir quelque chose qui est très atypique. C'est une clôture avec un renvoi vers l'intérieur. C'est-à-dire que la plupart des clôtures qui ferment des lieux, par exemple des lieux militaires, ou des lieux de stockage de véhicules, par exemple, on voit souvent ça, ou bon, évidemment des centrales nucléaires, enfin tout genre de choses. Il y a une clôture, pas forcément avec du barbelé, mais une clôture, et puis il y a un renvoi vers l'extérieur pour empêcher d'entrer. Le renvoi, il se fait vers le côté où il faut empêcher d'entrer, c'est logique. Quand vous voyez un renvoi vers l'intérieur, c'est que c'est pour empêcher de sortir. Donc forcément, c'est des lieux déjà beaucoup plus particuliers. Là, pour l'instant, c'est pas fléché.
Prendre la direction de l'aéroport Saint-Exupéry.
Donc c'est vraiment très très proche de l'aéroport.
Au pied des pistes.
Et voilà. Il n'est pas indiqué, il est collé à l'hôtel Kyriad, mais on reconnaît quand même le lieu. Enfin, là, j'ai quasiment aucun doute. Remarquez, c'est facile. D'abord, il y a un drapeau français. Donc ça se reconnaît. Voilà. Centre de rétention administrative. C'est marqué dessus. Et voilà. Voilà le bus.
Alors là, donc, on est devant le centre de rétention administratif de Lyon. C'est vraiment juste à quelques coudées de l'autre côté de l'aéroport. Juste en bordure d'autoroute.
Ouais. On est en bordure d'autoroute. Bon, c'est un no man's land, hein, par ailleurs. L'entrée dans le centre, c'est une impasse. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune raison de se trouver là et de venir voir ce qui se passe. Et d'ailleurs, on ne croise évidemment personne. C'est la première fois que je viens, donc je découvre aussi. Bon, là, on ne voit pas les bâtiments principaux puisqu'on voit essentiellement l'enceinte. Donc, il y a une première clôture assez légère dont les rabats sont déjà vers l'intérieur. C'est du grillage banalisé qu'on peut retrouver n'importe où, peint en vert. Donc, assez discret. Et du barbelé classique.
Ça, c'est un petit barbelé assez fin.
C'est le barbelé d'origine. C'est du barbelé très léger. Un tout petit peu plus agressif que du barbelé agricole, puisqu'il a 4 barbes, alors que le barbelé peut en avoir que 2. Donc ça, c'est de la clôture extérieure. Et à l'intérieur, par contre, on voit évidemment, elle a une clôture beaucoup plus structurée, beaucoup plus agressive aussi. Même si elle reste relativement discrète, puisque c'est du grillage, hein, peint en blanc à la base. Par contre,
Il y a un rabat vers l'intérieur qui est fait avec des grilles hercées, c'est-à-dire qu'on voit qu'il y a des pointes de herse rabattues vers l'intérieur, donc c'est évidemment là très dangereux. Et à l'intérieur de la clôture, vous avez des rouleaux de barbelés rasoirs du concertina qui est déployé sur le, tout le long, en hauteur, ce qui est très classique, ce qui se fait aussi en prison. Voilà, donc toute la défense périmétrique, elle est à l'intérieur de la clôture. Ce qui fait que là, par exemple, entre les deux clôtures, pour se blesser sur les barbelés, il faut être reclus. De l'extérieur, vous risquez rien. Donc ça, c'est une première chose. Après, on ne voit pas l'intérieur du périmètre. On ne peut pas avoir de contact. Hein. Je n'ai pas indiqué non plus que la clôture intérieure, à l'intérieur du grillage, il y a des plantes. Hein. Il y a une haie de plantes, une haie vive. Hein. Avant, c'était ça, les clôtures classiques, qui empêchent de voir l'intérieur du lieu. Hein. L'opacité, c'est quand même ce qui permet de rendre les lieux discrets, et surtout l'opacité végétale. Donc il devait y avoir simplement la première clôture au début, la plus solide, la plus défensive, on va dire. Et là, manifestement, il y a eu donc une clôture supplémentaire, qui est plus légère, beaucoup plus discrète, qui crée un sentiment de distance, c'est-à-dire que pour le coup, le centre est moins accessible. C'est-à-dire que par exemple, peut-être que des gens avant pouvaient venir parler à travers le grillage, des gens enfermés. Là, c'est plus possible. Ceci dit, ce barbelé, il se suffit pas à lui-même. Hein. Vous avez vu, il y a des caméras aux quatre coins, avec certainement donc un centre de surveillance quand même high-tech, je veux dire, qui remplace, si vous voulez, les miradors classiques, ce qui permet de surveiller tout le périmètre. Et à l'intérieur, on devine des bâtiments qui ont l'air de rien avoir de particulier. À la base, il me semble qu'ils ont récupéré un hôtel Formule 1. Donc c'est une architecture qui, finalement, est assez légère. Et ce qui est intéressant, évidemment, c'est de voir qu'elle... on est juste à côté, mais vraiment juste à 15 mètres de l'hôtel Ibis. Ou Kyriade, enfin d'un hôtel, ouais. Quoi. Et les gens se garent en allant à l'hôtel, le long de la clôture du centre de rétention.
On est l'entreprise Koch et on est spécialisé dans le négoce de clôture, grillage et portail. Donc vous avez ici les différents produits. On a d'abord ici la ronce barbelée, ce qu'on appelle vulgairement le barbelé à vache. Des petits picots tous les 10 cm qui sont reliés dans un fil torsadé. Donc ça, c'est vraiment le classique, c'est ce qu'on met pour les bovins, c'est ce qu'on utilise en agriculture, mais qu'on peut mettre également sur des bas-volets. Les bas-volets, ce sont des poteaux inclinés en partie haute au-dessus d'une clôture de 2 mètres qui permet de faire une clôture dissuasive. Après, on a d'autres produits beaucoup plus agressifs. On a soit la barrière B, soit le concertina. La barrière B, c'est ce qu'on appelle un feuillard, c'est-à-dire que c'est une feuille d'acier dans laquelle est recoupée une forme de lame de rasoir. Ça, c'est un produit beaucoup plus agressif et beaucoup plus dangereux que, je dirais, le barbelé. Et enfin, le concertina, c'est un peu comme des spirales, soit de diamètre 700, soit de diamètre 900. C'est comme un gros ressort, et ce gros ressort fait qu'on peut détendre, je dirais, celui-ci entre 10 et 13 mètres de long. Plus on va le laisser serrer, plus le produit va se refermer sur la personne si celle-ci essaye de la sectionner pour passer. Ça, c'est un produit très dissuasif. Bon, ça peut être effectivement un produit qu'on utilise en prison, bien sûr.
Alors que la justice tutoie les coupables, alors que là-bas, à la fin, reste l'arbre de destruction massive, alors que le policier corrige tes convictions à coups de bâton, et que les lobbies scientifiques s'imposent comme les nouveaux inquisiteurs, alors qu'on vit sous surveillance, et que l'économie dissout nos droits fondamentaux, tu voudrais qu'on note la vie à un homme, en quelques mots déplacés, déjà les barbelés.
Ce qu'on vend le plus aujourd'hui, c'est le concertina.
Moi, ce que ça m'évoque, si vous voulez, c'est que l'actualité du barbelé, elle est là, pour nous, pour les gens qui, les citoyens de ce pays, elle est là, quoi. Elle n'est pas pendant la Seconde Guerre mondiale, elle n'est pas en Hongrie ou dans d'autres pays lointains, où on se dit, ah, là-bas, là-bas, ils mettent du barbelé, et toujours avec une idée, moi j'ai entendu ça, hein, les Hongrois, quand même, là, avec les migrants, en ce moment, ils sont brutaux, la preuve, ils mettent du barbelé. Alors, c'est pas faux, hein. Cette brutalité, elle est vraie, mais en même temps, ça nous permet de détourner le regard, précisément, de notre usage de ces barbelés. Mais encore une fois, la fermeture par herse, elle est largement aussi violente que le concertina. Donc, l'utilisation de systèmes de délimitation visiblement brutaux, qui peuvent déchirer la chair, ou voire tuer, pour enfermer des gens qui, en l'occurrence, là, ce ne sont pas des criminels, qui vont être, en plus, certainement renvoyés chez eux, la plupart du temps, vers des situations particulièrement difficiles. Donc la violence, elle est dans l'enfermement, mais elle est aussi dans le geste de renvoi, d'exclusion brutale qui va suivre. Et le barbelé, il est là, utilisé là dans ce cadre-là, c'est-à-dire qu'il est le signe même de la violence politique et d'une violence politique extrême, où l'enjeu, c'est la vie et la mort. Donc cette violence politique extrême que nous exerçons, si on prend au sérieux l'idée de démocratie, puisque c'est bien au nom du peuple français que cette violence s'exerce, elle est très proche de nous, elle est là, dès qu'on veut la voir, finalement on peut la voir, vous avez vu, c'est facile, c'est à la fois très difficile, puisque c'est pas indiqué, c'est à côté d'un hôtel, c'est discret, et en même temps il suffit de s'approcher, et de remarquer que ben, ça ressemble à un camp, et ben c'en est un. C'est un camp d'enfermement et d'exclusion, et c'est une violence qu'on exerce au quotidien, d'une manière très discrète.
Et si on s'approche, pour essayer de voir, ce qui est incroyable, c'est qu'on les devine plus qu'on les voit vraiment, ces barbelés en forme de rouleau. On les voit, mais ça reste très discret quand même.
Le barbelé, contrairement à ce qu'on peut penser maintenant, nous on le reçoit quand même comme un objet violent. C'est pour ça qu'en général on le cache, surtout le barbelé rasoir.
C'est comme celui-là.
C'est donc plus des pics, des petites pics, des petites barbes justement. C'est des petites lames serties sur un fil, donc un fil plus gros, un fil plus solide, avec des lames qui peuvent avoir différentes formes, plus ou moins agressives, hein, qui coupent et qui déchirent. Mais de toute façon, même celui-là, qui est beaucoup plus agressif et qui, je le rappelle, est réservé aux hommes. Hein. Vous n'utilisez pas de concertina, de barbelé rasoir contre des animaux, c'est beaucoup trop dangereux. Mais ceci dit, vous parliez de la discrétion et le barbelé, malgré le symbole très normalement agressif qui lui est attaché, est d'abord singularisé par sa discrétion. Il est beaucoup plus discret justement qu'une haie vive, qui cache l'espace, que des murs en bois ou en pierre évidemment, ou qu'un mur d'enceinte ou qu'une forteresse. Et c'est un outil qui, hein, dans la prairie par exemple, ces trois discrets traits comme ça qu'on voit presque pas de loin, c'est une grande vertu pendant la Première Guerre mondiale devant les tranchées, puisqu'il est très peu visible dans le brouillard des combats. Il y a beaucoup de récits comme ça de poilus ou de soldats allemands qui tombent sur les barbelés sans les avoir vus. Puis il est dur à viser, même en termes de repérage aérien, etc. Donc sa discrétion a toujours été une vertu du barbelé. Sa discrétion et sa légèreté, ce qui permet de le déplier, de le poser très rapidement selon les besoins, de le déplacer, évidemment, les tranchées, c'est évident. Les camps de concentration ou d'extermination aussi. Ce sont des campements qu'on peut déplacer, modifier, agrandir, moduler et surtout qu'on peut faire disparaître. Treblinka, c'est un réseau de barbelés essentiellement avec des baraques au milieu de la forêt. Et une fois que le travail est terminé, disons, il a été détruit. Le terrain a été labouré. Évidemment, avec des murs, avec des fondations, c'est beaucoup plus compliqué. Donc la discrétion et la légèreté du barbelé, on a toujours fait la force technologique. Sauf qu'évidemment, avec tous les événements où il a été utilisé, il a concentré dans sa forme une force symbolique très forte. C'est-à-dire qu'il suffit de voir une barbe de barbelé pour tout de suite pas forcément penser aux champs, prairies, etc., mais à la violence politique, quoi, extrême, au camp, quoi, au camp. Mais manifestement, ce rapport direct à cette violence, elle s'estompe de telle manière qu'on voit réapparaître du barbelé dans des lieux où ce n'était certainement pas possible, pas imaginable. Ça reste utilisé d'une manière, comme vous le voyez là, discrète, à l'intérieur, pas sur la voie publique d'une certaine manière. Mais enfin, ça peut être utilisé parfois maintenant autour de hangars de stockage, dans des lieux pas si retirés que ça. L'obsession de sécurité arrive à un point tel que le prix à payer pour utiliser ce genre de protection contre l'autre est en train de baisser, de devenir plus acceptable. Après, il faudra toujours que les gens se rappellent qu'être du bon côté du barbelé, comme on est aujourd'hui, c'est aussi un sentiment très désagréable. Parce que si on est du bon côté du barbelé, ça veut dire qu'il y en a qui sont du mauvais côté. Et évidemment, moi, c'est un truc qui me frappe énormément. La vraie question actuellement, c'est pas tant est-ce que le barbelé est de retour ou pas. C'est le moment où il va pouvoir être utilisé d'une manière explicite. C'est-à-dire que on va pouvoir dire « on met des barbelés pour vous ». Et que ça deviendra un discours explicite et souhaité. Parce que pour l'instant, vous voyez, voilà, c'est quand même caché, quoi. On ne dit pas « on met des barbelés », on dit « on renvoie les gens chez eux en avion », etc. Mais là, ça commence à s'inverser, et il va devenir vendeur d'évoquer dans le discours politique ce type de violence-là. Et je ne fais pas forcément référence à des partis extrêmes, même si, bien sûr, après le premier tour, on peut y penser, mais je pense que si on est arrivé déjà à ce niveau de violence-là, c'est pas avec des partis extrêmes, hein. Des partis dits de gauche le font sans difficulté. On est dans une démocratie libérale, mais où la protection, la sécurité et l'obsession de cette sécurité permettent d'exercer une violence de gestion. Donc on dit qu'on chasse les migrants, on le fait d'une manière gestionnaire. Et donc on arrive à jouer un peu sur tous ces tableaux, c'est-à-dire la douceur libérale et en même temps la dureté répressive, de telle manière que ce lieu peut exister sans que ça pose de problème à personne, ou à pas grand monde.
La barrière s'ouvre, il y a des gens qui partent. Il y avait une personne à l'arrière d'un break qui fait au revoir de la main d'ailleurs à travers la vitre, et qui, bah, on ne sait pas, sera probablement conduit dans un avion à l'aéroport, ils n'ont pas vraiment d'autres raisons de sortir.
Non, surtout on tourne à droite, oui. Oui, bah oui. Mm.
Barbelé, si on reste sur ce domaine-là, c'est la prison, le barbelé pur, ça peut être les agriculteurs. Mais ça peut être également des dépôts privés où là, ils préfèrent mettre des barbelés parce que c'est quand même moins agressif que le concertina dont on a parlé tout à l'heure, ou la barrière B qui, elle, est plus agressive, même visuelle. Ces derniers produits, on en vend à la RATP pour protéger les différents sites de la RATP ou de la SNCF. Donc tout ça, c'est souvent protégé par, pas ces barbelés, mais ces concertina qui sont ces lames de rasoir.
Passer le barbelé pour le tapis vert. Gorgée de marguerite, nappée de boutons d'or. Passer le barbelé pour le conifère.
Là, vous avez le barbelé classique. Vous voyez, ça se vend en rouleau de 100 mètres. Ça se déroule, tout simplement. Vous voyez ici à l'intérieur. Avec un picot qui est fait tous les 10 cm. Mais ce produit peut être également couplé aux grands anneaux concertina qu'on a vu tout à l'heure. On pourrait très bien imaginer de raccrocher du concertina sur du barbelé. On double à ce moment-là la protection. On ne va pas mettre des lames de rasoir, par contre, pour tout ce qui est bétail, s'ils se blessent trop. On réserve ça aux hommes. On réserve ça aux hommes.
Pour protéger les frontières, à l'heure actuelle, c'est ça.
C'est ce genre de produit qu'on met. Pour toutes les frontières, du reste, qui sont un peu sensibles, oui, bien sûr, vous voyez ça sur toutes les frontières. Bien sûr.
Désormais, les murs se multiplient en Europe. La Hongrie, pays de transit vers l'Allemagne, a achevé la clôture de barbelés le long de sa frontière avec la Serbie.
La clôture qui fait polémique devrait mesurer 175 km le long de la frontière serbe.
Passer le barbelé.
Comme un bruit qui court.
Sur France Inter.
Alors vous, Olivier Razac, donc vous êtes philosophe, vous êtes enseignant à l'Université de Grenoble, et donc vous êtes intéressé à l'histoire de cet objet, le barbelé.
Ce qui a été la dynamique pour moi de cette réflexion, c'était de me dire, mais le barbelé symbolise plusieurs choses, en fait. D'abord, évidemment, ce qui était le plus évident, cette question d'une violence politique extrême, et sa place en même temps dans tous les systèmes. C'est-à-dire que le barbelé est un outil de délimitation, et même sous la forme du camp, hein, qui a été utilisé par tous les régimes. Donc ça m'intéressait, et puis aussi un autre aspect plus technologique. Quand on regarde l'histoire des délimitations de l'espace, en fait le barbelé est une étape dans la virtualisation des délimitations de l'espace. C'est-à-dire que le mouvement qui m'intéressait, c'est un mur d'enceinte, une forteresse, le barbelé, qui montre ce mur déjà en train de s'effacer, de se restreindre au minimum, et ensuite, plus rien, c'est-à-dire la caméra ou l'onde, les technologies, justement, électroniques, high-tech, etc. Non matérielles. Bonjour.
Bonjour.
Je vais interrompre.
Oui.
On est dans du crâne, on voudrait savoir ce que vous faites là.
Je fais un reportage sur le barbelé. Donc, comme vous avez deux belles sortes de barbelés là et là, on vient observer les barbelés.
Ouais, là, non. Enfin, là,
sans
ouais.
Autorisation, ouais. On est un peu dans un contexte particulier.
Mais je comprends bien qu'il fasse une autorisation pour être à l'intérieur du centre, mais là on est à l'extérieur.
Et c'est quoi là sur le barbelé? J'ai pas trop compris en fait.
C'est une histoire, monsieur est l'auteur d'une histoire politique du barbelé, et donc on vient parler de ça.
D'accord. Par contre, c'est vrai que c'est un peu tendancieux dans le sens où vous êtes sur un centre de rétention, qu'il y a des caméras partout, que nous on a été alertés. Des gens qui filmaient ou qui...
Là, on est en surveillance continue, hein, donc ça serait bien d'arrêter, en fait, du coup. Parce que là, nous, on a des...
On a des consignes, là, on va pas vous laisser...
Voilà.
L'idée, c'est d'être hors champ des ouais, caméras.
C'est okay.
Voilà.
Merci.
Compréhension. Bonne journée.
Au revoir. Ça devait arriver.
Après, voilà, ils sont dans leur rôle. Et le barbelé, je reviens un peu sur ce qu'on disait, c'est-à-dire qu'on utilise des barbelés toujours avec d'autres dispositifs de délimitation, grillage, technologie, des hommes, la preuve, voilà. Vous avez vu, la sécurité périmétrique, c'est toujours des hommes aussi. Et donc, technologiquement, le barbelé était plutôt aussi le représentant de ça, de la virtualisation des technologies de délimitation de l'espace et par extension de l'exercice du pouvoir. Donc, par exemple, si vous voulez faire une clôture comme en Israël, ou plutôt en Palestine, longue de plusieurs centaines de kilomètres, vous n'allez pas pouvoir faire un mur en béton. Le fameux mur en béton, il fait pas tout le long de la clôture, c'est pas possible. Donc vous allez moduler la clôture en utilisant de l'usage du pouvoir le plus brutal, archaïque, c'est-à-dire le mur en béton, des militaires, des barbelés, des grilles, des pics, tout ce que vous voulez, là où vous voulez que ça soit très très concentré. Puis là où c'est dans les champs, etc., vous allez mettre une double rangée de grillage avec des technologies plutôt de détection de contact, puis des patrouilles. Mais des patrouilles qui n'agissent que s'il y a une alarme. Voilà, donc vous potentialisez le pouvoir, vous le retenez, de telle manière que vous utilisez des technologies pour qu'il ne s'actualise que quand il faut. Et cette extraordinaire économie de pouvoir, c'est-à-dire qu'au lieu qu'il soit figé et définitivement coulé dans le béton, ça devient de l'énergie potentielle de réaction, ce qui permet de le rendre à la fois plus efficace et plus discret. Le barbelé, c'est dès le début de ça. Et c'est ça qui m'a intéressé dans le barbelé, donc à la fois les dimensions symboliques, technologiques et le tout, ayant évidemment une signification politique sur les modes d'exercice du pouvoir. Voilà. Donc pour la dame, c'était monomaniaque, qu'est-ce que ça veut dire que d'écrire sur le barbelé? En fait, c'est écrire sur le pouvoir à partir d'un objet. Mais il y a des objets comme ça qui représentent très bien l'évolution des manières d'exercer le pouvoir et leur signification, les enjeux politiques qu'ils peuvent avoir pour nous aujourd'hui.
Minuscule territoire de 12 km carrés, Melilla, avec l'enclave voisine de Ceuta, est le seul point de passage terrestre entre l'Afrique et l'Europe. Une frontière protégée par une triple barrière de 7 mètres de hauteur, largement financée par l'Union européenne et qui s'étend sur une dizaine de kilomètres. L'ajout de barbelés truffés de lames de rasoir au sommet du grillage doit rendre ce mur rempli de capteurs, de radars et de caméras toujours plus infranchissable.
Au départ, le barbelé, c'était un simple outil agricole pour empêcher le bétail de s'échapper.
Le barbelé, en fait, il apparaît aux États-Unis à la fin du 19e siècle, au moment où il faut clôturer des grands espaces assez inhospitaliers. Donc, il y a d'abord une exigence matérielle, économique, agricole. On ne peut pas clôturer les terrains de la même manière qu'on le faisait avant, c'est-à-dire avec des rails de planches, avec des haies vives, des plantes, ou des murets, comme en Angleterre. Donc il faut autre chose, il faut des matériaux qui puissent repousser les bêtes et en même temps couvrir de longues distances, résister au climat, etc. Donc il y a plein de modèles, c'est ça qui est intéressant. Il y a une effervescence de brevets, de clôture défensive, en fait, agricole. Et c'est cette forme-là qu'on connaît encore, donc pas le barbelé rasoir, le barbelé, on va dire agricole, qui est encore celui qui est utilisé et qui est le brevet qui va éliminer les autres par sa simplicité, son efficacité, sa simplicité de fabrication.
Donc ça, c'est né au fin 19e siècle. Ça a été inventé par...
Par Glidden, aux États-Unis. C'est quasiment la même forme. Enfin, c'est la même forme. Hein. C'est deux barbes biseautées, donc piquantes, qui sont serties sur un fil central par un autre fil torsadé. Donc c'est une invention qui est simple et en même temps qui est assez géniale, puisqu'il y a d'une part la barbe qui pique et en même temps la torsion des deux fils. C'est ce qui va faire la résistance du fil. Mais évidemment, c'est tout de suite politique, puisqu'il s'agit d'abord de l'occupation du terrain, inégalitaire puisque clôturé, donc l'agriculture, c'est tout de suite politique. Hein. Mais en plus de ça, évidemment, dans le contexte de la progression de la frontière et très rapidement de la colonisation des terres sur les terres libres indiennes, mais pas seulement d'ailleurs, aussi des grandes pâtures libres des cow-boys, mais évidemment des Indiens. Donc c'est immédiatement politique.
Hey, Debs, de quel côté va-t-on ?
Vers le nord.
Pourquoi vers le nord ?
Je crois que je suis comme le bétail, qui va au nord en flairant l'herbe.
Qu'est-ce qui vous attire au nord ? Est-ce qu'il n'y a plus d'herbe au Texas ?
Il y en a des tas, petit. Elle est haute, elle est fine, et elle est si grasse. Elle s'étend depuis les Pecos jusqu'à la Sabine. Et puis ils ont mis les fils de fer. Avant, c'était des prairies libres et à perte de vue. Aussi loin que tu pouvais faire aller ton cheval ou faire marcher le bétail, il n'y avait rien pour t'arrêter. Mais rien pour t'enfermer.
C'est pour ça que vous êtes parti ?
Oui. Et voilà de nouveau leur barbelé devant moi.
Et immédiatement, d'ailleurs, le barbelé est utilisé dans la guerre d'indépendance de Cuba contre l'Espagne. Donc les Espagnols ont enfermé des dizaines de milliers de civils derrière des barbelés. Fin 19e aussi, c'est-à-dire quasiment immédiatement, et dans la guerre des bourgs en Afrique du Sud, aussi dans les camps de civils. Donc il est immédiatement utilisé pour une violence politique de la colonisation des terres, une violence de la concentration des populations, et dans la guerre aussi, la guerre russo-japonaise, fin 19e aussi, il est utilisé dans les premières, dans des tranchées, comme défense accessoire, on appelait, donc devant les tranchées. Donc il est immédiatement utilisé dans les trois grandes utilisations qu'on peut lui trouver, la colonisation de l'espace, l'enfermement des populations et le système de fortification temporaire de la guerre moderne et de son industrialisation.
C'est devenu le symbole de l'oppression.
Voilà, sauf que je pense qu'il s'estompe. Pendant tout un temps, il y a eu toute une rhétorique trompeuse, mais malgré tout, une rhétorique de la virtualisation, avec le civet, par exemple, au sud de l'Espagne.
Le civet, c'est
un système de détection des embarcations, essentiellement dans la Méditerranée, sur les côtes espagnoles, avec des senseurs, des caméras infrarouges, des centres de surveillance et des patrouilles qui interviennent en fonction des éléments qui sont donnés, avec des radars. Donc c'est un système virtualisé de contrôle, de surveillance des côtes, mais avec un discours aussi de « bon, c'est pas visuellement violent, vous pouvez aller sur les plages tranquilles, vous n'êtes pas obligé de barbeler les plages ». Ça permet d'avoir une rhétorique qui euphémise encore une fois la violence qu'on exerce. Ça permet aussi de ne pas gêner les citoyens qui sont du bon côté. Voilà, on ne va pas leur mettre des barbelés pour qu'ils gâcheraient leurs vacances. Sauf que quand le discours de la virtualisation, de l'euphémisation, de l'édulcoration va disparaître, va se montrer comme hypocrisie, comme paravent, et que un autre discours va s'installer en disant « mais pas du tout, non seulement on va vous protéger, mais on va vous montrer qu'on vous protège. » Et pour vous montrer qu'on vous protège, le barbelé, ça vous montre qu'on vous protège. Vous voyez bien, ces gens-là, là, ces hordes, qui sont animalisés par le fait même de les mettre derrière des barbelés, vous voyez bien qu'ils sont derrière. Et vous êtes de l'autre côté. Vous êtes du bon côté. C'est-à-dire que l'image d'homme derrière des barbelés, qui devrait être insupportable, est en train de changer de polarité pour devenir une image de protection. Cette polarisation, elle est absolument redoutable. Elle est en train d'être mise en œuvre d'une manière majeure, même par ceux qui ne voudraient pas le faire. Et elle est porteuse de violences politiques extrêmes, évidemment. Qui veut vivre du bon côté des barbelés ? Être du bon côté des barbelés, c'est en même temps être contaminé, nécessairement, par ce qui se passe de l'autre côté. Je ne peux pas être tranquillement du bon côté des barbelés. C'est pas possible. Bonsoir.
Bonjour.
J'ai des choses très importantes à vous dire. Je viens de faire une visite comme un condamné à mort.
Moi, je m'appelle Michel François, je suis membre du réseau Éducation sans frontières. J'ai visité un jeune né en RDC, qui, au moment où il a fait sa demande d'asile, a été interpellé parce que ses empreintes ont révélé qu'il était arrivé ici avec un passeport angolais, à un autre nom. Depuis, il a fait 3 mois de prison, et aujourd'hui, il doit être expulsé vers l'Angola, qui n'est pas son pays, où il risque d'être emprisonné, comme détenteur d'un faux passeport angolais. Et c'est un garçon de 18 ans qui a été arrêté après avoir fait sa rentrée scolaire le lendemain de sa rentrée scolaire. La semaine dernière, une jeune fille, Cynthia, même chose, au moment de sa demande d'asile, a donné ses empreintes, a été confondue pour avoir un passeport angolais, a été expédiée mercredi dernier vers l'Angola. Et la dernière fois que Cynthia nous a appelés, elle a appelé justement Patty, qui va être expulsée aujourd'hui, et elle lui a dit « ils veulent me mettre en prison ». Et depuis, on n'avait plus de nouvelles d'elle. 17 ans et demi, elle avait, elle. Et en prison à Corba, pendant 2 mois, elle avait vu un psychiatre qui a délivré un certificat médical disant que cette jeune fille souffrait de stress post-traumatique et qu'il y avait un danger de suicide pour elle. À la prison, le psychiatre atteste de ça. Il n'empêche qu'à la sortie de prison, elle est menée ici au CRA et que malgré de multiples crises de nerfs, elle n'est pas soignée et elle est expédiée vers l'Angola, qui n'est pas son pays, à 17 ans et demi. On a fait beaucoup de pétitions, beaucoup d'adresses au préfet. On a été reçu à la préfecture vendredi dernier par le directeur de cabinet du préfet du Rhône. Mais on a bien vu qu'il n'y avait rien à en attendre. Et ils ne veulent pas discuter de ça. Aucune clémence, aucune mansuétude du côté de la préfecture, au contraire.
Il y a Y'a des agents avec leurs plaques, y'a des matraques qui me traquent, y'a mes papiers qui se dérobent et l'injustice me rattrape. Je cours parce qu'ils me braquent, dans les médias ils m'abattent. C'est un cliché à la mode, c'est une photo de sangate. Travail fantôme au black car mon visage est sans date. J'ai la sueur au sein en diode, mon patron il voit qu'embarque. Aventurier expat, un immigré qu'on exploite tellement souvent en exode qu'on attend de moi que je parte. Je suis un genre du voyage domicilié partout. Liberté sans périmètre, j'ai pas de carte de séjour, ils me disent citoyen visible. Quand l'étranger est jugé, le retour au pays sonne comme une peine à perpétuité. J'irai périmer l'éternité jusqu'au paradis brûlé. Les lois de circulation et leur paradigme, j'irai loin des frontières érigées en prison. J'irai comme un nomade, j'irai risquer l'évasion.
Grillage rouillé sous la peau, je sors de l'enclos. Barbelé dans les veines, je m'échappe de moi-même. Laisse la peur dans le dos, l'horizon n'est pas si grand. J'embrasse le firmament, le ciel n'est pas si haut. Grillage rouillé sous la peau, je sors de l'enclos. Barbelé dans les veines, je m'échappe de moi-même. Laisse la peur dans le dos, l'horizon n'est pas si grand. J'embrasse le firmament, le ciel n'est pas si haut.
Sous les bris de la haine, toutes les murs craquelés par des coups qu'on assène. Nous sommes tous affalés dans le carcan de nos gènes. Ritournelle d'un balai fait danser dans mes veines. Ballerine barbelée sous les briques de la haine, tous les murs craquelés par des coups qu'on assène. Nous sommes tous affalés dans le carcan de nos gènes. Ritournelle d'un balai fait danser dans mes veines des ballerines barbelées.
Olivier Razac, on est donc toujours devant le centre de rétention administrative de Lyon, donc juste au pied des pistes de l'aéroport de Lyon. On entend les avions là qui décollent.
Il y a un pouvoir qui s'exerce là qui est en rapport avec ce qui légitime les États modernes, c'est-à-dire une certaine forme de protection de la population. Vulnérable, qu'il faut protéger d'autres corps, qui sont des corps qui nous menacent, sur un mode, hein, métaphoriquement, essentiellement médical. C'est pour ça qu'il faut qu'on soit en non-contact, et vous voyez bien le dispositif là. Il faut se rendre compte que c'est incompréhensible cette règle d'étanchéité. Si on ne comprend pas tout l'aspect de biopolitique qu'il y a derrière ces dispositifs, biopolitique qui est une forme de légitimation majeure des formes de l'État moderne et une légitimation qui n'est pas démocratique. Parce que la biopolitique, c'est la légitimation justement médicale, biologique, corporelle, animale de la politique. Et nous, quand nous voulons être protégés de cette manière-là, nous sommes protégés comme des corps. Nous sommes protégés comme du bétail. Pas comme des citoyens. Ça ne protège pas des citoyens de cette manière-là, de la même manière qu'on n'enferme pas des citoyens de cette manière-là. Ça, c'est un lieu qui est un lieu, c'est une machine. Voilà, c'est un lieu de gestion. Donc, évidemment, pour les citoyens, c'est gênant, cette histoire. Pour les corps, ça ne l'est pas. Pour les corps inquiets, voire angoissés maladivement, comme on est et comme on nous configure, il suffit de faire un lieu comme ça pour que se sentir menacé. Hein, il suffit que des militaires patrouillent avec des FAMAS pour se dire, bah oui, le danger est là. Je ne dis pas que c'est sur la base de rien, hein, puisqu'il y a des violences qui s'exercent. Mais évidemment, il ne s'agit plus de chercher la cause politique, historique de ces violences. Et c'est en ça aussi que le barbelé, évidemment, est un symbole très important. Il révèle la dimension biopolitique, c'est-à-dire animale, de cette gestion. C'est en train de se faire. On va basculer d'époque. Peut-être. Peut-être.
C'était Comme un bruit qui court. Vous retrouvez les références du livre d'Olivier Razac et toutes les informations sur le site de France Inter. Laissez-nous des messages, abonnez-vous au podcast et faites courir le bruit sur les réseaux sociaux.
Il nous reste quelques secondes pour vous inciter à aller voir Le Maniement des larmes, troisième volet de la trilogie Bleu, Blanc, Rouge de Nicolas Lambert sur la démocratie française par le biais de ses grandes sources de richesse, pétrole, nucléaire et armement donc pour ce dernier volet. Le Maniement des larmes, c'est au théâtre du Grand Parquet, 35 rue d'Aubervilliers à Paris, métro Stalingrad, de mercredi à dimanche prochain. Profitez-en. Après les infos, retrouvez La Preuve par Z de Jean-François Zigel. Et nous, on se retrouve samedi prochain à 16h.